Alors on va passer du Parti socialiste aux pays qui furent socialistes, qui je crois ne le sont plus vraiment, mais en tout cas de la dissidence à ces partis ou à ces élections qui sont en cours, puisqu'il est question de Russie et qu'il y a des élections en Russie avec une réélection probable de Vladimir Poutine. Nous parlions d'Alexandre Solzhenitsyn en compagnie de Georges Niva, universitaire historien des idées et traducteur d'Alexandre Solzhenitsyn, et puis de la biographe d'Alexandre Solzhenitsyn, qui est également dans ce studio, Lyudmila Saraskina. Et puis nous accueillons un philosophe, rédacteur en chef à Philosophie Magazine, Michel Etchaninov. Michel Etchaninov, aujourd'hui, la dissidence à Vladimir Poutine, comment s'illustre-t-elle? Comment s'exprime-t-elle?
Alors, évidemment, l'époque a changé. On n'est plus à l'époque soviétique. On n'est pas dissident comme on était dissident il y a 40 ans. Aujourd'hui, on peut sortir du pays, on peut circuler. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que il y a des points communs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'époque soviétique, il y avait une idéologie qu'on n'avait pas le droit d'attaquer. Aujourd'hui, il y a une sorte de nouvelle idéologie un peu nationaliste avec des relents religieux qu'on n'a pas le droit d'attaquer. Donc aujourd'hui, finalement, les nouveaux dissidents, ils font souvent comme leurs aînés. C'est-à-dire, ils manifestent. Il manifeste parfois de manière solitaire, ce qu'on appelle un piquet en Russie, qui depuis 2014 est... on n'a pas le droit de récidiver, on peut se retrouver en prison si on manifeste plusieurs fois de manière solitaire pour une cause quelconque, par exemple pour Charlie Hebdo il y a 3 ans. Ou alors, on crée des actions, on essaie de créer des actions originales et artistiques, mais qui attaquent de front le pouvoir. On fait des happenings, on crée des... Voilà, donc il y a beaucoup également de créativité artistique dans cette nouvelle dissidence.
Qu'est-ce qui, aujourd'hui, a changé par rapport à l'époque de Solzhenitsyn dont on a parlé, cet homme qui était obligé de camoufler ses manuscrits? Aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait par ces dissidents? Qu'est-ce qui est considéré comme dangereux en Russie?
Alors, évidemment, il y a beaucoup de choses qui ont changé. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est un régime autoritaire, c'était un pays totalitaire. Donc, c'est moins dangereux de parler qu'il y a 40 ans, mais il y a des sujets tabous. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Et particulièrement, la nouvelle idéologie qui a été créée par Vladimir Poutine au fil de ses années de pouvoir et qui est revenue en force depuis 2012, depuis sa dernière réélection, qui consiste à dire que l'Europe est un continent décadent, que la Russie est le sauveur conservateur de l'Europe, cette idéologie-là, on n'a pas le droit de l'attaquer. Et donc, ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, il y a un metteur en scène de théâtre, par exemple, comme Kirill Serebrennikov, qui avait mis en scène un Noureyev, où on parlait de l'homosexualité de Noureyev. Ça, c'était scandaleux dans un pays où il y a une loi contre la propagande homosexuelle. Pareil, de la même manière, on n'a pas le droit d'attaquer la position de la Russie sur l'Ukraine et la Crimée.
Par exemple, le cinéaste Oleg Sentsov.
Voilà, le cinéaste Oleg Sentsov.
Il faut nous dire qui il est, oui, et ce qui lui est reproché.
Oleg Sentsov, c'est un cinéaste qui est assez connu dans l'espace post-soviétique. Il avait fait un film qui s'appelait Gamer, sur des jeunes qui jouent aux jeux vidéo. Il habite en Crimée, il est ukrainien. Et quand il y a eu l'annexion de la Crimée il y a 4 ans, il n'était pas content, il s'est mis à protester. Alors, à ce moment-là, on a fait contre lui quelque chose que Solzhenitsyn décrit de manière extrêmement précise dans l'archipel du Goulag, que j'ai relu ces passages hier soir. On lui a créé une affaire bidon. C'est-à-dire qu'on a dit qu'il prétend, le FSB, les services secrets, ont prétendu qu'il allait organiser des attentats. Il avait encore rien fait, mais on a dit qu'il allait détruire des bâtiments officiels et des statues de Lénine. On a trouvé des faux témoins, dont un s'est rétracté depuis. On l'a arrêté. Il y a eu un procès contre lui. Aujourd'hui, Oleg Sentsov est à Yamal, en Sibérie, en Russie. Il fait à peu près moins 20 degrés aujourd'hui là-bas, au nord du cercle polaire. Il est condamné à 20 ans de prison. 20 ans de prison pour des actes terroristes qu'il n'a évidemment pas commis et qui en plus sont imaginaires. Donc c'est quelqu'un qui, comme d'autres citoyens en Ukraine, mais aussi évidemment en Russie, ont été scandalisés par l'annexion de la Crimée et la guerre hybride en Ukraine. Aujourd'hui, on peut considérer que ce sont des nouveaux dissidents.
Georges Niva, le paradoxe, on a parlé de Solzhenitsyn, vous nous avez présenté les premiers pas de Solzhenitsyn et ce qu'il avait rendu célèbre, et néanmoins, son idéologie, si l'on peut appeler les choses ainsi, semble malgré tout favorable à une grande Russie, semble favorable à une vision extrêmement traditionnelle de la Russie, assez proche finalement de ce que défend Vladimir Poutine.
Non, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Disons, prenez Dostoïevski, dont tout à l'heure parlait Larissa Saraskina, qui a écrit un beau livre sur Dostoïevski. Si vous jugez de Dostoïevski par certains articles du journal de l'écrivain, vous enfermez Dostoïevski dans une parole monologique. Si vous le lisez parce qu'il a écrit, c'est un grand roman, c'est tout à fait autre chose. Vous essayez de comprendre comment fonctionnait cet esprit universel, dialectique, qu'était Dostoïevski. Je pense que c'est la même approche qu'il nous faut pour Solzhenitsyn. Parce que ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est quand même un événement colossal. C'est pas seulement son arrivée à la gloire, c'est également l'avalanche qui a joué un rôle, à mon avis, très important pour faire tomber l'URSS, pour faire tomber le mensonge. N'oublions pas que son premier grand, écrit politique, c'est ne plus vivre dans le mensonge. Gauche, droite, peu importe, mais ne plus vivre dans le mensonge. C'est valable aujourd'hui. Et je voudrais ajouter que hier ou avant-hier, c'était Alexandre Sokourov qui me le disait, on distribuait des petits feuillets dans les rues de Moscou pour dénoncer le traître Solzhenitsyn. Aujourd'hui, hein ?
Michel Echelaninov.
C'est vrai qu'il y a eu un moment où Vladimir Poutine a essayé de récupérer, entre guillemets, Solzhenitsyn. Il est allé le voir plusieurs fois, etc.
Parce que Solzhenitsyn ne voulait pas faire le trajet inverse.
Une fois.
Il faut rappeler que Solzhenitsyn avait dit « Je n'irai pas voir Vladimir Poutine s'il veut voir qu'il vienne ».
Tout à fait. Ce qui est intéressant, Solzhenitsyn ensuite a dit qu'il avait été déçu par Vladimir Poutine. Parce que Solzhenitsyn a déployé ses idées à Poutine. Notamment, il a énormément parlé de l'importance du pouvoir local en Russie. Pour Solzhenitsyn, c'est quelque chose de très important que la démocratie existe au niveau local et pas seulement au niveau de la capitale et des grandes villes. Et ensuite, Solzhenitsyn lui-même a dit « Poutine n'a pas fait ce que je lui ai dit. Il a été déçu par Poutine parce que Poutine a au contraire accéléré la verticale du pouvoir, a créé un pouvoir justement où le local n'a plus beaucoup de sens. Et ben donc en fait il y a eu une sorte de rencontre manquée et Solzhenitsyn a été extrêmement déçu par la politique de Poutine.
Mais alors il y a une chose au moins sur laquelle Solzhenitsyn a été malgré tout prophétique, puisque lorsqu'il est arrivé en Occident, il a fait un discours notamment très célèbre à Harvard en 1978 où il a fustiger le matérialisme de l'Occident en laissant les Américains un peu stupéfaits parce qu'ils ne s'attendaient pas à avoir ce type d'homme en face d'eux. Et aujourd'hui, on peut dire que la Russie est très largement engagée dans le consumérisme et le matérialisme. Je disais par exemple qu'il y a aujourd'hui 1500 librairies en Russie, c'est-à-dire quasiment rien, quoi. Et on peut considérer que ce peuple qui lisait énormément Georges Niva...
Non. Parce que vous pouvez commander vos livres par la poste. Hein, c'est comme si vous oubliez Amazon ici. Il y a l'équivalent d'Amazon. Moi, je commande des livres à Ozone. Vous pouvez commander absolument tout ce que vous voulez. Et il y a des librairies immenses et magnifiques, comme Bibliobus au cœur de Moscou. Vous avez des piles d'archipel du Goulag, soit dans l'édition complète, soit dans...
Vous pensez qu'il parle encore aux jeunes russes, Solzhenitsyn ?
Je pense que, à nouveau, oui. À nouveau, oui, parce que ils ont besoin de trouver une pensée de résistance morale. On les a vus, ces jeunes lycéens, lycéennes qui protestaient il y a un an, il y a deux ans. À quoi s'accrocher ? Ils peuvent pas s'accrocher véritablement, si vous voulez, à la dénonciation de la corruption par Navalny, parce que c'est pas quelque chose qui vous entraîne au point de vue moral. Ça vous indigne, ça les indigne. Donc il cherche de ce côté-là.
Michel Chaninov.
Ouais, ce qui est intéressant, c'est que la jeunesse russe a redécouvert évidemment des repères moraux comme Solzhenitsyn pour effectivement pouvoir respirer après 18 ans de poutinisme. Mais ils ont aussi redécouvert beaucoup d'autres auteurs de la dissidence
qui ont
pas forcément la même idée du monde. D'ailleurs, Vladimir Bukovsky, qui a écrit un livre extraordinaire quand il a été échangé, qui s'appelle « Et le vent reprend ses tours », qui est publié en Russie. Natalia Gorbanievskaya, qui est une autre dissidente poétesse. Sakharov, c'est-à-dire ce qui est intéressant, c'est que le mot dissident a un peu disparu de la scène culturelle en Russie dans les années 90. Et puis, quand on en a vu à nouveau la nécessité d'écouter ces personnes qui ont résisté de manière pacifique, de manière créative, ben on les redécouvre. Et la jeunesse russe est en train de les redécouvrir.
Georges Nivard.
Vous savez, c'est tout à fait exact ce que dit Michel Chaninoff. Il y a eu une immense littérature de la dissidence. On peut y ajouter Yevgeny Ginsburg, André Sinyavsky, Marchenko. C'est quelque chose de spectaculaire, c'est-à-dire... Et Grossman, le grand Grossman. Mais Solzhenitsyn, si vous voulez, a pris la tête... grâce à son encyclopédie du Goulag et grâce à ce courage extraordinaire dont il a fait montre.
Mais alors, lorsque l'on dit que Vladimir Poutine a redonné sa fierté à la Russie, lorsqu'on voit par exemple les faits qui lui sont reprochés, semble-t-il à raison, je pense notamment à l'empoisonnement de cet espion et de sa fille en Grande-Bretagne. Est-ce que vous pensez que ce type d'acte est aujourd'hui perçu comme étant populaire en Russie? Est-ce que c'est ignoré? Votre point de vue à ce sujet, Georges Niva?
Bon, je pense qu'il y a une partie de la population, de l'opinion publique qui est extrêmement désemparée par ça, comme elle est emparée par ce qu'on apprend sur la guerre en Syrie, sur l'immobilisme au Donbass, vous voyez. Bien sûr, plus vous êtes loin d'ailleurs du Donbass en Sibérie, plus vous êtes pour les séparatistes. Plus vous êtes loin de la Crimée, plus vous êtes pour l'accession, l'acquisition de la Crimée. C'est d'ailleurs ce que le film de ma fille Anne montre, pour montrer qu'il y a une majorité de gens derrière Poutine aux élections, mais c'est faute de mieux et c'est aussi à côté de l'extraordinaire leçon de cruauté du XXe siècle. Ne retournons pas à ces épisodes de cruauté de notre guerre civile.
Votre point de vue, Michel Chaninoff.
En fait, l'empoisonnement de Skripal et de sa fille a donné lieu, notamment dans les médias russes, à une nouvelle vague d'exaltation nationaliste à laquelle on assiste sur les chaînes publiques, c'est-à-dire l'Occident nous en veut, l'Occident nous manipule, évidemment c'est pas nous, c'est un coup monté pour gâcher la Coupe du Monde, etc. Alors, c'est un vieux ressort qu'utilise Poutine depuis pas mal d'années. Il a utilisé à plein, évidemment, lors de l'annexion de la Crimée. Il essaye de compenser les problèmes économiques et sociaux que traverse son pays depuis pas mal d'années, depuis 2008 et aussi depuis les sanctions postérieures à son annexion de la Crimée, par un discours ultranationaliste qui vise à hystériser en quelque sorte le peuple russe. Alors Georges Diva a tout à fait raison de dire que ça marche pas dans beaucoup de parties du pays, que ça marche d'ailleurs de moins en moins parce que les gens se rendent compte que c'est un discours qui est réutilisé à chaque fois qu'il s'agit aujourd'hui de mobiliser les Russes pour qu'ils aillent voter, parce que la grande peur de Poutine, c'est de ne pas avoir un taux de participation suffisamment élevé. Donc il faut mobiliser les gens en disant « l'Occident nous en veut, donc redressons-nous ». Voilà, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de Russes se rendent compte que ce ressort nationaliste, voilà, il est un peu usé.
Georges Niva.
Si vous voulez, il y a un discours qu'on retrouve dans les discours de Vladimir Poutine, qui est « l'Occident nous assiège, l'Occident nous humilie, l'Occident ne veut pas que nous soyons différents de lui ». Et ça, l'anthologie qu'a faite Michel Nicke récemment à l'Institut du Save, elle est formidable, parce que vous voyez des textes qui datent de 1820-1830, vous enlevez le nom, vous mettez la date d'aujourd'hui, rien n'a changé. Mais, si vous voulez, il y a quand même des fractures à l'intérieur de l'opinion. Je vous donnerai uniquement l'exemple du Goulag. Bon, alors, l'archipel du Goulag, c'est long à lire, 2500 pages. Donc, Madame Solzhenitsyn en a fait une édition, une anthologie, pas une édition abrégée, de quelques chapitres. Bon, c'est lu dans toutes les écoles, c'est lu dans les collèges. Ah oui. C'est-à-dire que l'archipel du Goulag, loin d'être interdit, il est au programme scolaire. Évidemment, avec l'aval du président Poutine, ça va de soi. Et dans le même temps, vous avez en Carélie, au nord, par exemple, Sandomor, où il y a eu environ 30 000 personnes exécutées en 2 jours, que l'on avait fait sortir du camp de Solovki, c'est en 39. Et vous avez militants de Mémorial, comme Dmitriev, qui a fait ressortir cette affaire-là. Il est en prison. ça ne colle pas, si vous voulez, avec l'édition de l'archipel Gulag. Ça veut dire que dans le pays, tout le monde n'obéit pas et qu'il y a des ennemis de la mémoire russe qui ont enfermé ce Dmitriev parce que il a ressorti ce lieu de mémoire de massacre de Sandomor.
Lyudmila Saraskina, vous qui êtes la biographe de Solzhenitsyn, qu'est-ce qu'il a à apprendre aux jeunes générations, à ces jeunes Russes, dissidents ou pas, qui vont aujourd'hui être appelés aux urnes?
Tout d'abord, je ne peux pas souscrire à toutes ces thèses que j'ai entendues dans ce studio. Et en posant la question comme ça, est-ce que Solzhenitsyn voterait Poutine ou non, aujourd'hui, c'est Poutine qui vote Solzhenitsyn pour Solzhenitsyn, parce que c'est Poutine qui a initié de commémorer 800 ans de la naissance. Поэтому давайте будем честными и говорить так, как оно есть. Понимаете, если при Брежневе Солженицына выслали из страны, выдворили, если при Хрущеве его очень быстро скинули с литературы, если Горбачев не дал ему возможности вернуться в страну и отменил расстрельную статью, если Ельцин его впустил в страну, но отлучил от телевидения, то при Путине дело Солженицына, книги Солженицына, преподавание Солженицына в школе, это дело нашего времени. Давайте будем честными, и давайте все-таки каждому отдавать то, что ему принадлежит.
Il faut reconnaître cette réalité.
Et sur la réalité et l'actualité de Solzhenitsyn.
И, конечно, понимаете, молодежь разная. Одна молодежь
aujourd'hui,
слушает рок-музыку,
différente.
Другая молодежь слушает классическую музыку.
Одна молодежь rock, читает d'autres préfèrent la musique classique.
Мы разные все. Но те люди, для которых важна русская мысль, русское пространство, русское дело, для них
Солженицын — это хлеб насущный, это кислород.
И поэтому кислород они дышат, и они Солженицына научились дышать, читать.
Et la jeune génération aujourd'hui a appris à respirer cet air, l'air de Solzhenitsyn, et de lui faire confiance.
Michel Etchaninov, vous animez aujourd'hui une association qui s'intitule Les Nouveaux Dissidents. En quoi consiste-t-elle? Et ces nouveaux dissidents, qu'est-ce qui aujourd'hui les caractérise? Comment peut-on les aider?
En fait, ces nouveaux dissidents, ils sont un peu partout dans le monde. C'est un mot qui avait effectivement un peu disparu du champ. Et puis, on s'est rendu compte que dans certains pays, l'autoritarisme persistait. En Chine, il s'aggrave. Dans d'autres, il revenait, comme en Russie, comme en Turquie, etc. Et donc, cette belle mission de la dissidence qui consiste à agir de manière individuelle, personnelle, comme Solzhenitsyn le faisait, c'est-à-dire pas comme le petit soldat d'une cause, pas comme le soldat d'une idéologie. Et je pense que Solzhenitsyn détesterait aujourd'hui être enfermé dans une idéologie. Eh bien, ces dissidents sont des gens qui agissent de manière personnelle, de manière non-violente, à visage découvert, comme le faisait Solzhenitsyn, c'est-à-dire avec courage. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y en a énormément dans le monde qui se connaissent pas forcément entre eux, qui ne connaissent pas forcément le contexte des uns des autres. Et donc, cette petite association vise à faire connaître leur combat un peu partout, en Russie, en Chine, en Iran, mais dans d'autres pays aussi, pour qu'on se rende compte que face à cette renaissance des autoritarismes, eh bien, il y a des hommes et des femmes courageuses qui luttent de manière créative.
Georges Niva, vous parliez du destin terrible de la Russie au XXe siècle, évoquant à la fois ce qu'a été le stalinisme, ce qu'a été également la Seconde Guerre mondiale pour la Russie, puisque la guerre à l'Est est peu connue en France et plus généralement en Occident. Quel futur voyez-vous pour la Russie alors que ces élections semblent gagnées pour Vladimir Poutine, que le pays ne va pas très bien malgré tout aujourd'hui?
C'est-à-dire, si vous voulez, Solzhenitsyn est un ferment d'inquiétude. La Russie, son avenir, il est dans la renaissance d'une inquiétude spirituelle, d'une inquiétude politique, d'une inquiétude sur le futur. Parce qu'on ne peut pas vivre en croyant qu'on a un avenir bétonné et avec un un leader qui, par la force de la biologie, ne sera pas là tout le temps. Ce n'est pas, c'est un avenir fermé. Et il faut un avenir ouvert. Cet avenir ouvert, des gens comme Alexandre Solzhenitsyn, ou avant lui, Léon Tolstoï, l'ont ouvert par une sorte d'inquiétude, en montrant que nous vivons sur des idées qui sont des cadavres. Et nous ne pouvons pas nous nourrir de cadavres idéologiques. Alors, quand on essaye de transformer Solzhenitsyn en une espèce de cadavre idéologique, partisan de la Vendée...
Il a été partisan de la Vendée, vous pouvez...
Non, il est allé en Vendée parce que ça lui rappelait le soulèvement qu'il a appelé Vendéen, de Tambov, qui est un soulèvement extraordinaire, où les généraux Tukhachevski et Zhukov ont fait leurs armes et qui a été 2 ans d'une cruauté extraordinaire. C'est ça qui l'a attiré, évidemment, en Vendée. Et c'est l'inquiétude sur notre passé. Si vous voulez, ne pas lire notre passé... Ça, il voulait le dire, comme une table de la loi. Par exemple, le développement de la Sibérie. Vous savez que Dostoïevski avait dit toujours « il nous faut reconquérir Tsargrad », c'est-à-dire Constantinople. Le reconquérir, alors que ça n'avait jamais été russe, naturellement, mais ça avait été orthodoxe et byzantin. Eh bien, il a repris le tout dernier message dans le tout dernier article du journal d'un écrivain Dostoïevski, notre développement, il doit être interne. Il doit être vers le nord-est, vers la Sibérie. Et ça, c'est magnifique.
J'aimerais conclure par quelques notes des Pussy Riot qui incarnent aujourd'hui une nouvelle forme de dissidence. On va les écouter. Les Pussy Riot, une présentation rapide, Michel et Jen.
C'est un collectif artistique et musical. Alors, je suis pas sûr que ce soit le style musical de Solzhenitsyn. C'est punk. Mais c'est des femmes qui, juste après l'élection, la réélection de Vladimir Poutine en 2012, sont allées dans le lieu symbolique de l'idéologie religieuse d'aujourd'hui, c'est-à-dire dans la cathédrale du Christ Sauveur à Moscou, et ont fait ce qu'ils appellent une prière punk à la Vierge Marie pour qu'elle les débarrasse de la corruption au sein du haut clergé orthodoxe, qui existe, malheureusement. Donc, elles ont touché à quelque chose qui touchait le nerf idéologique du pouvoir aujourd'hui. Elles ont été condamnées pour offense en sentiment religieux à la prison. Elles ont fait la connie pénitentiaire, en tout cas deux d'entre elles. Elles ont été libérées ensuite au moment des Jeux Olympiques de Sochi. Mais elles aussi, elles sont attaquées à quelque chose qui était tabou au sein du pouvoir et elles en ont payé le prix.
Merci à tous les trois de nous avoir présenté votre Solzhenitsyn et ses nouveaux dissidents. En tout cas, il y a un lien dans la dissidence, c'est le mot papier. Les papiers d'ailleurs avec lesquels Solzhenitsyn avait véritablement un rapport sacré. Parce qu'il faut se rappeler à quel point c'était compliqué pour ces dissidents, ne serait-ce que de cacher encore une fois ces bouts de papier sur lesquels ils écrivaient. On a cette constante-là de Vassili Grossman à Solzhenitsyn